Radio Okapi.
À la présentation, Jocelyne Moussa Opondé.
Treize personnes, dont 10 enfants tués hier à Djougou en Ituri. C'est la deuxième attaque ciblant les civils en l'espace de 4 jours, affirme le chef de la chefferie de Barema Badjeré. Fin ce jeudi de la visite de travail du chef de l'État en Belgique. Hier mercredi, deux autres protocoles d'accord ont été signés à Anvers. Ida Sawyer, directrice adjointe chargée de l'Afrique à Human Rights White Watch, est l'invitée de la rédaction ce matin. Bonjour à tous. Encore des morts à Djougou, en Ituri. 13 personnes ont été tuées, dont 10 enfants, dans la nuit de mardi à hier mercredi au village de Ngadou. Les assaillants ont également dépossédé les villageois de leurs biens, affirme le chef de la chefferie des Bahema Badjeré. D'après lui, il s'agit de la deuxième attaque du genre ciblant les civils en l'espace de 4 jours. Isaac Raymond.
Les victimes de cette attaque sont essentiellement des enfants de moins de 8 ans, rapporte le chef de Bahema Badjeré. Il précise que 10 enfants et 3 adultes ont été tués par ces assaillants. 3 autres personnes ont été blessées. Selon ses chefs coutumiers, ces assaillants munis de fusils et d'armes blanches ont fait incursion mardi vers 23h au village de Ngadou dans le groupe Manglé. Ces inciviques se sont introduits dans plusieurs habitations pour se livrer aux tueries de la population et au pillage des biens. Ils ont emporté entre autres des poules et des chèvres avant de se retirer sans être inquiets. La population déplore l'absence des fardessés dans ces villages. Les chefs de la chefferie exigent des enquêtes pour identifier les auteurs de ces crimes pour qu'ils répondent de leurs actes à la justice. Des sources de sécurité du territoire des Djougou avancent les bilans des 16 morts et 5 blessés au cours de cette attaque. Nous n'avons pas réussi à joindre les porte-parole des fardessés en Ituri pour avoir la version de l'armée. Signalons que c'est la deuxième attaque des assaillants à l'espace d'une semaine. 8 personnes ont été tuées au groupe Maddeja dans la même entité coutumière. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
À Beni, la population accuse les militaires de commettre des exactions sur les civils. Le porte-parole des opérations militaires Sokola 1, le major Mac Azoukai, parle plutôt des brebis galeuses au sein de l'armée. Il annonce en outre la création dans un bref délai d'une police militaire mixte qui aura pour mission de traquer les soldats indisciplinés. Major Mac Azoukai est au micro de Sekombi Katondolo.
Nous demandons aux victimes de dénoncer de pareils cas auprès des commandants des unités indexées. Il est demandé à chaque commandant de prendre ses hommes en main et de veiller sur la discipline qui est la mère de toutes les armées. Néanmoins, toutes les dispositions sont prises pour que le militaire soit regroupé dans le site de transit avant leur déploiement dans leur position. Sinon, quelques mesures ont été prises par la hiérarchie du secteur opérationnel Sokola 1. Dans les jours à venir, il y aura la création d'une police militaire mixte pour essayer de traquer tous les gens qui sont en train de vagabonder dans la ville.
La visite du président Félix Tshisekedi en Belgique s'achève aujourd'hui. Hier, 2 protocoles d'entente ont été signés entre la RDC et la Belgique à Anvers. L'un des 2 protocoles d'entente porte sur la coopération entre le port maritime de Matadi et celui d'Anvers. L'autre protocole d'entente concerne la promotion de l'industrie diamantaire congolaise. L'accord vise notamment à améliorer la taxation, la traçabilité et la garantie du meilleur prix du diamant congolais. La partie belge, représentée par Antwerp World Diamond Center, s'engage entre autres à créer une école d'études des matières premières, des matières précieuses en RDC. Que peut concrètement apporter cet accord économique à la RDC? Écoutez la réponse du président Félix Tshisekedi.
Primo, l'éclosion d'une classe moyenne d'opérateurs congolais par la mise en place de partenariats qui promeuvent la chaîne de valeur locale au travers de tailleries et bijouteries en République démocratique du Congo. Secundo, la promotion d'une industrie diamantaire respectueuse des normes internationales d'approvisionnement responsable. Tertio, la canalisation des flux des diamants vers, d'une part, la bourse de matières précieuses à créer en République démocratique du Congo avec l'assistance de la WDC et, d'autre part, le marché mondial via les places boursières anversoises. Quarto, le renforcement des capacités des Congolais par la création d'une école de gémologie en République démocratique du Congo.
Pour sa part, Harry Epstein, le directeur de l'AWDC, estime que ce protocole d'entente est une excellente feuille de route pour ajouter de la valeur au diamant congolais. Je vous propose de l'écouter.
Nos deux pays considèrent que la vocation du commerce des diamants est de contribuer au bien-être de la population et au développement socio-économique des pays producteurs de diamants en Afrique. Si nous observons une malencontreuse, mais espérons-le, temporaire diminution des importations directes des diamants originaires de la République démocratique du Congo, nous ne sommes pas moins confiants que votre visite, Monsieur le Président, et la signature du protocole d'entente vont constituer une excellente feuille de route pour travailler ensemble, plus et mieux, et pour ajouter de la valeur à vos pierres si précieuses, grâce à un environnement d'affaires sérieux, caractérisé par un marché concurrentiel et un mécanisme de contrôle transparent ici en Anvers.
Et puis ici à Kinshasa, entre-temps, les membres du gouvernement s'engagent à adopter un comportement conforme à l'éthique. Avec à leur tête le Premier ministre, ils ont signé hier un acte public de leur engagement. Selon Sylvestre Ilunga, ces gestes traduisent l'expression de la volonté politique de Félix Tshisekedi de placer la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption au cœur de son mandat. Jean-Pierre Elali Coco nous en parle.
Les 65 membres de l'équipe gouvernementale ont signé un acte d'engagement devant la presse et l'assistance. Le chef du gouvernement énumère ici quelques valeurs déontologiques.
Ce comportement doit être caractérisé par la stricte observance des valeurs déontologiques ci-après. Agir avec dévouement, honnêteté, intégrité, équité, dignité, impartialité et loyauté.
Madame Rose Boyata, ministre des Affaires sociales, donne toute une symbolique.
Nous devons être l'exemple. C'est comme une maison qu'on a construite au sommet d'une montagne. Tout le monde passe et voit la maison. C'est comme aussi quand vous êtes ministre, tout le monde a un œil regardant par rapport à votre comportement.
Selon certains observateurs, cette action est une première dans la moralisation de la classe politique. Après ces gestes, les membres du gouvernement doivent s'acquitter d'un devoir, déclarer officiellement leurs avoirs avant de se mettre résolument au travail.
L'actualité, c'est aussi la suspension des travaux de construction sur le site situé en face de la façade principale du Palais du Peuple dans la commune de Kassavubu. La décision est du ministre d'État chargé de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, d'y avoir pris cette mesure conservatoire pour éviter tout contentieux qui impliquerait le gouvernement congolais. En fait, depuis un certain temps, des engins de l'entreprise chinoise Beijing Yuban Group nivellent le terrain situé derrière la tribune pour construire notamment un centre culturel et artistique et de l'Institut National des Arts. Les détails avec Jacques Moulima.
Les deux panneaux affichés sur la palissade en tôle sur le site spécifient que le maître d'ouvrage est le ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. En effet, ceci est soutenu par un arrêté ministériel daté du 15 août 2019. Cependant, d'après le ministre de l'Urbanisme et Habitat, ce même terrain fait déjà objet d'une affectation en 2016. Pius Mwabilou.
Cet espace avait déjà été attribué par arrêté ministériel à une société Richesse Taylor.
En effet, cet arrêté du ministère de l'Urbanisme et Habitat désaffectait et mettait à la disposition ce domaine public de l'État à la société Richesse Taylor. Et cela en s'appuyant sur un autre arrêté des affaires foncières qui créait une parcelle de terre. D'où il faut éviter à la République des contentieux inutiles.
Je dois être très regardant sur tout ce qui concerne les intérêts de la République, afin d'éviter des conflits, des procès inutiles à la République démocratique du Congo. Je dois sécuriser la République, sécuriser les contrats, les partenariats ou les conventions signées par la République avec les tiers.
En attendant que l'affaire s'éclaircisse, les travaux sur ces sites sont au point mort.
L'invité. 3 ans après son expulsion de la RDC par l'ancien pouvoir, Ida Sawyer est de retour à Kinshasa et se montre toujours combative sur le terrain des droits de l'homme. La directrice adjointe chargée de l'Afrique à Human Rights Watch parle de certains progrès réalisés pour le respect des droits de l'homme en RDC. Elle estime tout de même qu'il reste encore des défis majeurs à surmonter. Ida Sawyer est l'invité de Radio Kapi et s'entretient avec Jeff Ngoy.
Ida Sayer, bonjour.
Bonjour Jeff.
Vous êtes parti suite à une incompréhension, une mésentente entre vous et le régime qui vient de partir, le régime Kabila. Qu'est-ce qui a pu motiver votre retour en RDC?
Donc je suis très heureuse d'être ici de retour en RDC après 3 ans d'absence suite à la publication de plusieurs de nos rapports par rapport à la répression politique, surtout contre les activistes qui ont manifesté pour le respect de la Constitution, le respect des droits humains. Et on avait une période très difficile avec nos relations de Human Rights Watch avec les autorités et moi je n'étais pas autorisée de rentrer. Mais maintenant, donc je suis de retour et nous avons rencontré plusieurs autorités ici sur place à Kinshasa, y compris le président de la République, Félix Tshisekedi, et je vois qu'il y a quand même des changements, des progrès qui ont été réalisés depuis l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi. Et je crois, dans les réunions qu'on a eues avec les autorités, c'est clair qu'il y a une volonté pour faire des changements et pour améliorer le respect des droits humains, établir un état de droit et lutter contre l'impunité. On a noté donc quelques mesures qui ont déjà été prises. Par exemple, le fait que l'ancien numéro 1 de l'ANR, Caleb Mouton, n'est plus dans cette position. Il était quelqu'un parmi les architectes, on peut dire, de la répression politique et plusieurs violations des droits humains. C'est encourageant que lui n'est pas là et plusieurs personnes nous ont dit que leur souhait est d'humaniser l'ANR et mettre fin à toutes les pratiques de répression du passé, et on espère que ça va rester comme ça. On était aussi encouragé avec le nouveau gouvernement qui est en place par le fait qu'il n'y a pas de personnes qui ont été sanctionnées par les États-Unis, l'Union européenne, le Conseil de sécurité des Nations unies au sein du gouvernement.
Avez-vous confiance en ce gouvernement?
Bon, je crois qu'il reste à voir comment ils vont travailler. Ça fait seulement une semaine depuis qu'ils sont en fonction. Au moins, je peux dire que les ministres qui nous avons rencontrés, ils ont montré la volonté à travailler et vraiment lutter pour la justice et le respect des droits humains. Mais maintenant, nous, on va regarder de près, comme d'habitude, et voir les actions et voir comment ce travail sera fait sur terrain et si réellement on aura ces changements et on aura la justice dont le peuple a vraiment soif pour toutes les graves violations des droits humains qu'on a documenté depuis très longtemps.
Donc, vous reprenez votre flambeau de combat des militantes pour le respect des droits de l'homme. Sous quel angle comptez-vous à nouveau?
Donc, je crois pour nous, un de nos soucis principaux est le fait qu'il reste aujourd'hui, surtout dans les forces de sécurité, des officiers haut gradés qui ont été responsables pour les graves violations des droits humains dans le passé, qui ont même été sanctionnés et qui restent toujours en fonction dans des positions très importantes. Et nous pensons que ce sera impossible à mettre fin au cycle de violence, cycle de graves violations des droits humains, si on ne met pas fin à l'impunité et si ces personnes ne soient pas arrêtées et traduites en justice. Et nous attendons des signaux clairs qu'il y aura ces changements à ce niveau-là et que ceux qui ont été responsables pour ces graves violations seront écartés de leurs fonctions de pouvoir et arrêtés et traduits en justice. Il y a aussi énormément à faire pour lutter contre les crimes commis par les groupes armés à l'est du Congo surtout et trouver finalement la sécurité là-bas. Et j'espère qu'avec le nouveau gouvernement et les nouvelles autorités, on ne va pas répéter les erreurs du passé.
La volonté est là, comme vous le dites, maintenant il faut attendre les actions concrètes.
Exact. Et on pense que c'est important. Donc quand il y a des allégations de détournement des fonds, il faut donner des signaux clairs que les choses ont changé, ce comportement n'est pas accepté et qu'il y aura des sanctions, même si c'est contre les propres membres de l'entourage, des leaders, donc ils sont prêts à agir. Et je crois que si ces signaux ne sont pas donnés, ce sera difficile à mettre fin à toute la corruption qui a existé dans ces pays depuis longtemps.
Ida Sayer, je vous remercie.
Un grand merci.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.